Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Nous sommes en 1754, sous le règne de Louis XV, dans le petit village de Soual, en Languedoc. Le héros a 19 ans. Il a le goût de l'aventure, tant mieux car il n'aura peut-être pas sa place à l'avenir sur le domaine familial. Il va saisir une formidable opportunité qui le conduira au pays des flibustiers et des boucaniers, à Hispaniola. Alors n'hésitez pas, venez l'accompagner dans sa fabuleuse aventure, vous serez enivré par les paysages et la flore de cette île, vous vivrez la rude vie des colons, laissez-vous entraîner au cœur de l'histoire d'une île souvent méconnue et d'une saga familiale hors norme. Tel est l'invite de Jean-François Gourdou dans son livre Saint-Domingue, saga du planteur Joseph du Gourdou et de sa famille, paru aux éditions du Lys Bleu. Bonjour Jean-François Gourdou.
Bonjour Gilbert et merci de m'accueillir à Radio Présence.
Nous sommes très heureux effectivement de vous recevoir à parole d'auteur. J'indique à nos fidèles auditeurs que je salue que vous pourrez réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Jean-François Gourdou, êtes-vous un aventurier et un grand voyageur comme votre ancêtre ?
Sûrement, j'ai gardé un peu de graines.
Et que vous voyagez souvent vous...
J'ai l'occasion de voyager souvent, effectivement, aux Antilles, en Afrique. J'aime bien ce climat équatorial.
Donc il y a un petit quelque chose dans l'ADN familial.
Sûrement.
Alors je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que vous êtes ancien chirurgien dans la spécialité orthopédie et traumatologie. Que vous êtes un passionné d'histoire et d'histoire de la médecine et de la chirurgie également, que vous avez cofondé le musée de la médecine de l'Hôtel Dieu, si mes renseignements sont exacts, et que vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes, notamment vous êtes membre titulaire de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, secrétaire perpétuel de l'Académie du Languedoc, président de l'Académie des livres de Toulouse. Alors, Président Gourdou, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations et nous décrire un peu l'actualité de l'Académie des livres de Toulouse ?
Oui, eh bien, c'est une idée que j'avais longtemps, parce qu'avec l'Académie du Languedoc, nous primions chaque année, deux fois par an pour des séances solennelles, des auteurs de la région toulousaine. De ce fait, j'ai eu l'idée de les regrouper transversalement, dans une compagnie, un club que nous avons appelé Académie des livres de Toulouse, car effectivement, les écrivains de la région toulousaine méritent d'être aussi académiciens.
Et donc, l'Académie des livres de Toulouse organise un événement annuel qui est important, qui est donc un salon du livre, et qui a lieu à quelle époque ?
Alors chaque année, nous avons un repas littéraire tous les mois pour donner la parole à un auteur sur son dernier livre. Ensuite, nous faisons un concours littéraire avec remise des prix à la médiathèque Cabanis qui nous est offerte gracieusement par la mairie de Toulouse. Et ensuite, à l'hôtel Capoul, place Wilson, nous faisons au printemps un salon du livre de notre compagnie, mais qui est ouvert à tous les auteurs de la région toulousaine.
Voilà, donc les auditeurs sont parfaitement informés de l'actualité de l'Académie des livres de Toulouse. Alors, en plus d'être membre de plusieurs sociétés savantes, je dois préciser que vous êtes un fin connaisseur du vieux Toulouse. Et je me suis laissé dire que vous aviez une bibliothèque personnelle de plus de 300 livres au sujet sur Toulouse.
Rien que sur Toulouse.
Ça doit vous prendre de la place.
Ça fait deux grosses étagères.
Et c'est une bibliothèque que vous avez commencé à constituer depuis longtemps ?
J'ai toujours acheté des livres depuis le lycée, en fréquentant les bouquinistes du vieux Toulouse.
Vous êtes par ailleurs donc écrivain. Vous avez publié avant Saint-Domingue trois ouvrages, je pense, peut-être que j'en ai oublié. Un ouvrage qui s'appelle « Les tours tolosanes », dont l'objet donc est d'écrire toutes les tours, de présenter toutes les tours qui existent dans le patrimoine architectural toulousain.
Et qui sont souvent cachées dans des hôtels particuliers ou où il y a des digicodes sur les portes cochères qui empêchent de rentrer.
Donc c'est un jeu de piste pour les trouver.
Tout à fait.
Vous avez ensuite publié un livre plus historique et plus spécifique concernant le premier amiral de Napoléon, qui s'appelle Bruyès.
L'amiral Bruyès, qui est mort, le pauvre, coulé par Nelson dans la rade d'Aboukir, lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte.
D'accord. Et donc, en 2023, vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle Saint-Domingue, qui est l'objet de cette émission. Alors, pourquoi vous êtes-vous penché sur cette île ?
Eh bien, dans ma famille, c'était une tradition orale de rappeler cette histoire de la famille Gourdou qui s'était installée à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, dont des archives avaient été conservées. Et pour le centenaire d'une vieille tante, celle-ci, voyant que j'étais le plus réceptif à cette histoire, m'a dit « Continue cette histoire, mais maintenant, écris-la. Tu as matière à l'écrire. » Et 10 ans plus tard, j'ai enfin écrit ce livre.
Alors, est-ce que vous avez mis longtemps pour l'écrire ? Parce qu'il y a, entre la décision et la parution, il y a eu, vous dites, à peu près 10 ans. Au niveau des recherches, de l'assemblage des informations, est-ce que ça a été un travail de longue haleine ?
Ben, j'ai profité de la période du Covid. Étant inactif à mon domicile, j'ai retrouvé, en rangeant mon bureau, ce fameux paquet d'archives qui était bien plié avec une petite ficelle pour les tenir. Je les ai donc relus, je ne les avais pas relus à l'époque. Et je me suis dit, ben voilà le travail qui s'annonce. Et donc, à partir de ces archives, j'ai reconstitué, donc dans ce livre, d'une part, l'histoire de Saint-Domingue, qui n'est pas bien connue, parce qu'il y a une confusion sur le nom. Saint-Domingue, c'était la partie française de toute l'île, qui s'appelait Hispaniola, et qui avait été découverte par Christophe Colomb en 1492. Et d'autre part, j'ai un peu romancé la vie de ce Joseph du Gourdou, qui est mort là-bas de fièvre tropicale, la fameuse fièvre jaune. Il avait fait venir ensuite son frère, qui est mort lui aussi, de la malaria, puis de sa sœur, qui était venue récolter l'héritage. Sa sœur y est restée 12 années, et malheureusement, la révolution des Noirs a été explosive en 1792, au moment de la Révolution française, et ils ont dû quitter l'île en abandonnant tout, mais en pensant y revenir. Ce que j'ai fait 200 ans plus tard.
Alors, on va revenir un petit peu en détail sur toutes ces étapes. Au préalable, j'aimerais que vous nous parliez de cette île et du traité qui a été très important pour le statut de l'île, qui est le traité de Ryswick.
Voilà. Donc, à ce traité, Louis XIV voulait absolument avoir cette partie de l'île qui était réputée pour la production du sucre. Et donc cette île avait un peu le monopole de la vente du sucre en France et même en Europe. Ce qui fait qu'il y a eu une grande richesse. Et donc ça, c'est l'histoire un peu de la colonisation en général, et en particulier à Saint-Domingue. Qui dit colonisation dit exploitation de nouvelles terres par de colons, et puis le problème éternel de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre au début était indigène, les Caraïbes, mais ils sont tous morts de la variole amenée par les Européens. Ensuite, on a fait venir des engagés français, et notamment Joseph du Gourdou était un engagé mais payant, il avait pu payer son voyage. Et donc après, ayant épuisé ses ressources européennes, on a fait venir les Noirs d'Afrique, surtout du Golfe de Guinée, du Congo et du Cameroun. Et c'est là le problème, c'est qu'en 1700, il y avait presque égalité entre les Blancs et les Noirs, mais en 1792, il y avait 450 000 Noirs et 30 000 Blancs, plus un troisième groupe qui était les Métis, 30 000 Métis, qui n'avaient pas droit législatif et qui ont été les ferments de l'application de la Révolution, et notamment les droits de l'homme et l'abolition de l'esclavage.
Et c'est ce qui va finalement précipiter un peu les choses pour votre ancêtre et pour tous les colons qui étaient installés, puisqu'effectivement, il y avait un équilibre démographique qui n'était pas du tout en
totalement
faveur.
Déséquilibré.
Alors, avant ce traité, quelles étaient les activités qu'il y avait sur cette île? Parce que vous nous avez parlé qu'après, il y avait l'exploitation donc, des plantations de sucre, et on verra d'autres produits comme l'indigo, hein, on y reviendra tout à l'heure. J'ai noté qu'il y avait une activité maritime de piraterie qui était bien développée dans la région.
En fait, les premiers Français se sont implantés vers 1600, dont 100 ans avant le traité de Ryswick, dans l'île de la Tortue, qui était leur pied-à-terre, le pied-à-terre des pirates. Le mot pied-à-terre vient de là, d'ailleurs. Ils cachaient leurs trésors après avoir coulé ou arrêté les bateaux espagnols chargés d'or, qui venaient du Mexique ou du Pérou. Et ensuite, certains se sont installés sur la côte. Les Espagnols les ont refoulés, mais comme les Espagnols n'étaient plus intéressés par Hispaniola, parce qu'ils étaient tous partis à la conquête du Mexique et de l'Amérique du Sud, donc il y avait un vide. Et ce vide a été été occupé par des Français qui, à ce moment-là, se sont mis à être des chasseurs de bétail. Il y avait beaucoup de bétail, de taureaux, qui avaient été implantés par les Espagnols pour avoir des réserves alimentaires, dont on appelait ça les boucaniers, parce qu'ils boucanaient, c'est-à-dire ils séchaient sur des clés, sur des braises, ils séchaient la viande pour la vendre en viande séchée à tous les bateaux qui étaient dans la région. Et ensuite, petit à petit, ils se sont mis à être colons jardiniers, c'est-à-dire à planter la canne à sucre.
Alors, donc, on enchaîne donc sur une activité d'agriculture, et en parallèle aux autres activités, il y a eu, me semble-t-il, des activités en termes de recherche d'or.
Ah, au début, Christophe Colomb qui était obsédé par la recherche de l'or, comme tous les Espagnols de l'époque, et il se trouvait qu'au milieu de l'île, du côté espagnol, il y avait une montagne qui s'appelait Cibao, où il y avait énormément d'or, et dont les Espagnols de puis 1492 jusqu'à 1600, ont exploité ces mines en faisant travailler les Caraïbes, jusqu'à leur extermination, par maladie ou par guerre. Et quand il n'y a eu plus de Caraïbes, il y avait davantage d'or au Mexique et au Pérou, ils ont laissé tomber la production d'or à Saint-Domingue, enfin à Hispaniola.
Alors sur cette île, il y a un relief qui est varié, il y a à la fois des collines et des montagnes, et le terme particulier au niveau de la plaine cultivable et la plus fertile, c'est le terme de morne.
Voilà, ce sont des collines entre les plaines. Et en fait, l'île, elle est partagée en deux par une chaîne importante qui va nord-sud et qui sépare Saint-Domingue français d'Hispaniola, qui est devenue la République dominicaine, espagnole, enfin maintenant indépendante, et cette grande barrière, effectivement, était naturelle. Donc les Espagnols la franchissaient difficilement, et dont la partie française avait été un peu abandonnée.
Donc, compte tenu de la situation géographique de l'île dont nous parlons, je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant un peu de zouk rétro.
Sans maintenant la vie. Si ou pas, non, vim chérie, ou m'est-il ma privée. Pourtant, seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité, baby. Baby, baby.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Jean-François Gourdou, le zouk, c'est une musique qui est appréciée dans la famille.
Ah, mais dans les Antilles, tout le monde, tous ceux qui ont voyagé dans les Antilles se souviennent de belles soirées au soleil sur les plages avec ce rythme endiablé. C'est fabuleux, les soirées antillaises.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-François Gourdou pour son ouvrage Saint-Domingue, saga du planteur Joseph du Gourdou et de sa famille, du 18 au 19e siècle, est paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Jean-François Gourdou, votre ancêtre, Joseph Gourdou, à 18-19 ans, et décide de partir à Saint-Domingue. Alors, quelle est la situation, quel est le contexte qui l'oriente à prendre cette décision?
Oui, en fait, c'est son père qui était maître de poste dans le village et qui donc utilisait la diligence qui allait de Sète à Bordeaux en passant par Castres, Soissons, Toulouse, Agen, Bordeaux. Et il y avait un gros trafic de voyageurs sur cette diligence. Et Louis XIV et surtout Louis XV ont cherché à peupler la colonie, et ont fait appel dans les consulats à des jeunes pour qu'ils viennent peupler la colonie.
Donc c'est un peuplement qui est organisé avec des gens qui vont partir et qui vont partir dans des conditions un petit peu différentes, puisqu'il y a ce qu'on appelle les voyageurs engagés et les voyageurs libres. Vous pouvez nous expliciter un petit peu ces différences?
Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, cette histoire qui m'est familiale est en fait une histoire qui a dû toucher de très nombreuses familles de la région, jusque dans les ports atlantiques, puisqu'il fallait vraiment peupler la colonie. Alors, pour peupler la colonie, il y avait la solution de faire un contrat entre un planteur déjà engagé qui demandait à trouver de la main-d'œuvre, qu'il logeait et faisait travailler pendant 3 ans, mais qui s'engageait à payer les frais de voyage et les frais d'hébergement. On appelait ça les engagés 36 mois, parce que le premier contrat était de 36 mois. Alors à côté, il y avait des engagés plus fortunés, notamment mon ancêtre, qui avait le voyage payé par les parents, puisqu'il avait eu sa part d'héritage, une bourse d'or pour partir, payer la diligence, payer le bateau, et payer la première installation à Saint-Domingue. Donc c'était, de toute façon, il y avait plusieurs solutions pour pouvoir peupler la colonie.
Et alors, en parallèle, il y avait effectivement ceux qui moins fortunés, qui arrivaient en voyageurs libres et qui, à ce moment-là, dès l'arrivée sur l'île, devaient se débrouiller pour trouver une plantation dans laquelle travailler.
Alors, donc, même ceux qui arrivaient libres cherchaient un emploi dès leur arrivée. Et il se trouve que mon ancêtre a rencontré comme engagé payé un de ses cousins de la région à qui il a été présenté en même temps. Tous les deux ont été présentés à un planteur qui s'appelait M. Morin et qui a dit, écoutez, j'ai besoin de main-d'œuvre, éternelle histoire des colonies, j'ai besoin de Verneuve, écoutez, Joseph Gourdou, je vous engage.
Alors, on voit dans le livre, effectivement, que le système est rodé, bien organisé, et que les planteurs qui sont sur place sont en attente de l'arrivée de cette manœuvre. Voilà. Alors, juste un petit point, parmi les contrats qu'il pouvait y avoir pour les gens qui arrivaient sur l'île, il y avait les contrats de mariage aussi.
Oui, alors il y avait certains planteurs qui étaient partis célibataires, et qui passait un contrat pour faire venir une femme libre pour l'épouser dans l'île. Et à ce moment-là, il passait un contrat avec un notaire. Il y avait une enquête de moralité pour la jeune femme qui venait. Et pour cette jeune femme, là aussi, le voyage était payé jusqu'à l'arrivée.
Donc toute une organisation au service du peuplement de l'île. Arrivé sur l'île...
Arrivé sur l'île, donc, les engagés étaient triés un peu par l'administration, et beaucoup ne savaient ni lire ni écrire, bien sûr, à cette époque-là. Et il se trouve que Joseph avait été éduqué par le curé du village. Il savait parler et écrire, ce qui était assez rare pour un jeune à l'époque. Et de ce fait, comme il était payant, comme il avait payé son voyage, il a été considéré, et de ce fait, anobli. Comme c'était l'usage un peu dans l'île.
Alors, effectivement, à son arrivée, il y a une scène où il déclare son identité, et on a l'impression, dans la manière dont vous le décrivez, que finalement, c'est une initiative de l'employé aux écritures, si on peut dire, qui va finalement lui donner la particule, et qui va déterminer un statut privilégié qu'il va conserver pendant toute sa vie sur l'île.
Oui, puisqu'il sera ce moment-là, c'est la grande histoire des colonies, il sera libre. Les autres, tous les engagés, n'étaient pas libres. Et les Noirs encore plus. Ouais. Parce qu'il y avait presque un esclavage blanc. Ah oui. Tandis que là, il avait citoyenneté, enfin, avant le titre de citoyen.
Et c'est ça qui va lui permettre de démarrer dans de très bonnes conditions.
C'est pour ça qu'il a pu obtenir une plantation. Mais après avoir fait ses preuves pendant 3 ans, dans la plantation Morin, avec son cousin.
Alors, on va y revenir en détail. Un instant, je voudrais qu'on vienne sur un point particulier. Vous explicitez très bien qu'en préalable à son départ, il se renseigne beaucoup et que la majorité des informations qu'il obtient, c'est grâce au curé de sa paroisse, qui lui-même a des contacts avec l'évêché, lui-même en relation avec tout le réseau du clergé qui allait jusqu'à Saint-Domingue.
Oui, mais au XVIIIe siècle, il faut savoir que c'est l'évêché qui a administré la province, et les préfets n'ont fait que succéder aux évêques. Les évêques avaient un rôle administratif et financier. Tout passait par les évêchés.
Voilà. Alors on le voit très bien dans la description que vous faites, et on se rend compte qu'effectivement...
C'est pour ça que les préfectures, après la Révolution, se sont installées dans les évêchés partout en France. Parce qu'il y avait déjà l'administration qui était là.
Voilà, c'était en place, et donc ça a été une manière de passer le relais, finalement.
Voilà, le préfet a succédé à l'évêque.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que Joseph Gourdou arrive sur l'île, et il va travailler dans un premier temps à la plantation Morin, c'est-à-dire dans une plantation accueillie par son propriétaire, et en quelque sorte, il va faire ses classes, il va faire sa formation.
Voilà, absolument.
Et vous décrivez un planteur qui est bienveillant et qui a le souci de bien former les gens qu'il reçoit, parce que pour lui, il en a besoin. Et on note aussi cette volonté de promouvoir cette activité de plantation, cette solidarité qu'il peut y avoir entre planteurs.
Tout à fait, oui, il y avait une entraide, c'était nouveau, les gens arrivaient, ils étaient pleins d'espérance et d'audace, donc forcément, ils étaient peu nombreux, et donc il y avait une immense entraide. Et même vis-à-vis des premiers esclaves noirs achetés au port du Cap François, au départ, il y en avait peu. Donc il y avait presque un climat familial entre le planteur et les premiers esclaves. C'est le nombre grandissant qui a fait ensuite naître les problèmes.
Alors une fois que...
Et à ce sujet, la France avait, dès le début, avant même le traité de Ryswick, créé un code qu'on appelait le code noir, qui était très respectueux des Noirs, beaucoup plus que dans les colonies anglaises ou hollandaises, où le système de l'esclavage était beaucoup plus dur. Le roi de France, Louis XIV, avait imposé aux planteurs de respecter les Noirs, de les éduquer, de les christianiser, de leur donner leur nom. Donc il y avait, avec ce code noir, un respect des Noirs, dans la mesure où c'était tout à fait novateur. La France a été novateur dans les droits des hommes.
Alors vous l'explicitez très, très en détail, et effectivement, en vous lisant, on se rend compte qu'il y avait un équilibre social qui a pu être mis en place grâce à ce fameux code.
Code noir. Ouais. De Colbert.
Donc, Joseph va développer ensuite donc, sa propre plantation. Il va s'appuyer effectivement sur, on pourrait dire, la législation du travail via ce code noir. Et il va se révéler être un brillant entrepreneur.
Ah, ils avaient la foi. Bah, il était jeune, il avait 25 ans. Mais il n'a pas eu le meilleur morceau, il n'a pas eu une plantation pleine. Il ne restait que les mornes. Donc il a eu une plantation en hauteur.
Alors c'est quelque chose qui ne lui a pas fait peur.
Non.
Et donc,
il a défriché.
Il a défriché et il s'est lancé dans la canne à sucre. Alors vous décrivez par le menu tout le processus depuis la récolte jusqu'à la production du produit qui va être expédié en métropole. Dans ce processus, pour le mettre en œuvre, il y avait besoin d'investissement, mais de beaucoup de main-d'œuvre.
Ah, oui. Hein, c'était l'histoire des colonisations. La main-d'œuvre.
Et c'est cet aspect-là qui, finalement, va lui permettre d'assurer ce développement. Et il va aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est révélé très entreprenant. Il ne veut pas se limiter au sucre parce qu'il sent bien qu'il y a une nécessité économique à se diversifier, donc vers le tabac, le cacao et l'indigo. Mmh. Et donc vous décrivez par le menu ce qui s'appelle l'indigoterie. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le schéma ?
Oui, l'indigo ainsi on peut dire, ruiner le lauragais de son pays d'origine, puisque l'indigo était produit pas cher et le pastel, lui, était beaucoup plus cher. Et le pastel a quasiment disparu au XVIIIe siècle à cause de l'indigo. Alors l'indigo, c'était des bassins successifs pour faire macérer la plante jusqu'à obtenir un conglomérat épais qui était ensuite transformé en... comme un peu le pastel, hein, en coque, et ces coques après étaient dissoutes pour la teinturerie, le fameux bleu, qui concurrençait le bleu du pastel. C'est le même principe.
Donc, le temps passe, la plantation se développe, et dans ce livre, il y a aussi une histoire d'amour.
Voilà.
Parce que Joseph avait rencontré une personne qui s'appelle Julie au moment de la traversée et il l'avait perdue de vue.
Ouais, puisqu'elle avait été mariée de force. Enfin, voilà. Pas de force,
mariée par contrat. Alors, comment ont-ils fait pour se retrouver ?
Ah, Donc c'est son cousin qui allait de temps en temps au Cap François et qui a essayé de se renseigner auprès de l'administration pour savoir où elle était. Mais l'administration, comme d'habitude, lui dit « c'est un secret, nous n'avons rien à vous dire ». Néanmoins, il était assez perspicace et il a pu savoir qu'elle était du côté de la ville de Saint-Marc, sur le golfe de Gonâve. Et à ce moment-là, il a dit à son cousin, je pense qu'elle est à Saint-Marc. Alors, bien sûr, excité comme tout, mon ancêtre Don Joseph est parti à la ville de Saint-Marc et a fait son enquête. Et il s'est dit, pour avoir des renseignements, c'est simple, on va peut-être faire tous les commerces, et notamment les quincailleries, puisque les colons achetaient du matériel. Alors il demande à un quincailler, est-ce que vous n'étiez pas un colon qui a une fils? J'ai appris qu'il était veuf. Ah, mais oui, ce colon-là, oui, oui, effectivement, il est mort. Et oui, c'est sa femme qui est toute seule à la plantation. Ah, mais où est cette plantation? Je ne peux rien vous dire. Monsieur, quand même, expliquez-moi, parce que je dois lui apporter mes condoléances. Le quincailler a dit quand même, c'est curieux qu'il aille présenter ses condoléances à cette jeune femme. C'est bizarre. Enfin bon, moi, quand même, je vais vous dire à peu près où est la plantation. Et c'est ainsi qu'il a retrouvé la plantation. Et qui a donc retrouvé son ami qui était un peu éberlué de le voir arriver plusieurs années après.
Et donc dans le livre, vous décrivez que ces retrouvailles se transforment vite en coups de foudre. Mmh. Et donc ils vont se marier. Et dès lors...
elle avait un enfant déjà.
Et elle avait déjà un enfant, oui. Mmh. Et ils vont se marier et ils vont avoir une vie agréable, mondaine, pendant de nombreuses années. Mais ce n'est que... Joseph, pendant longtemps, supervisait deux plantations, oui. C'est-à-dire la plantation Bagatelle de son épouse et la sienne. Mais à un moment, ça lui a paru un peu lourd. Et c'est à cette époque qu'il a décidé de faire appel à son frère.
De faire appel à son frère, voilà. Donc son frère a hésité parce que son frère s'était marié à Bordeaux. Il travaillait à l'hôpital de Bordeaux. Donc il hésitait à venir. Et puis quand même, bon, c'était à la mode à Bordeaux, on ne parlait que des Antilles, des colonies. Donc finalement il a craqué et un jour il a dit à sa femme, « Allez, on s'embarque, on y va ».
Il s'est laissé séduire par l'appel de l'exotisme.
Ouais. Voilà. Alors pendant ce temps-là, Joseph et Julie ont beaucoup visité l'île. Ils se promenaient régulièrement, ils faisaient des voyages pour connaître l'île. Et c'était le milieu colonial, les gens se recevaient beaucoup, il y avait des fêtes permanentes. Donc ils étaient souvent invités, puis ils avaient fait un très beau mariage, ils avaient fait une grande fête dans la plantation de Julie, qui était plus belle que celle de Bellevue.
Alors je voudrais attirer l'attention des auditeurs. Dans ce livre, c'est un roman, c'est une histoire, mais c'est aussi un formidable guide, une formidable leçon de botanique, parce que vous donnez moult détails justement sur cette plantation en Bagatelle, et on apprend beaucoup au niveau des différentes sortes de plantes, de fruits également.
C'est très très riche. Voilà.
Et j'ai bien retenu aussi, et je la recommande fortement aux auditeurs, la leçon, ce que j'appelle la leçon de café que vous donnez, page 165, ouais. Avec beaucoup, beaucoup de précision. Depuis Saint-Domingue, nous allons revenir un instant à Toulouse avec Claude Nougaro.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi.
et la brique rouge des minimes, où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Toulouse, Claude Nougaro, un incontournable pour vous ?
Ah ben quand on est Toulousain, on ne peut que penser Nougaro.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-François Gourdou pour son ouvrage Saint-Domingue, paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Jean-François Gourdou, nous avons parlé du mariage donc de votre ancêtre avec Julie et de la vie très agréable qu'ils avaient, puisque vous décrivez des scènes où on a vraiment l'impression que c'est un couple assez proche des couples actuel finalement qui s'adonne au tourisme, mais ils avaient donc les moyens de s'adonner au tourisme parce qu'ils étaient propriétaires et parce qu'ils étaient organisés en conséquence. Quel type d'organisation il y avait pour qu'ils puissent profiter par ailleurs de voyages et de distractions?
Mais dans les plantations, il y avait des Noirs affranchis qui étaient ceux qui étaient des gens de maison, et surtout il y avait le commandeur qui dirigeait les Noirs des plantations. Ce qui fait qu'il y avait des degrés de liberté assez importants, qu'on a un peu oublié par la suite, dont ces affranchis vivaient en symbiose complète avec les propriétaires, et c'est surtout le commandeur qui surveillait les champs. Mais il y avait aussi les affranchis qui surveillaient la distillerie, qui suivaient les élaborations du café, de l'indigo, du tabac. Enfin, donc, il y avait des responsables à chaque niveau de la culture. Et c'était des Noirs affranchis de confiance.
Donc, une organisation sociale qui a permis à votre... Et du travail, d'ailleurs, qui a permis à votre ancêtre de bien visiter...
C'est les propriétaires qui choisissaient parmi les esclaves qu'ils avaient achetés, tristement, au port... Quand ils voyaient leurs capacités, les relations humaines, décidaient d'affranchir assez rapidement les Noirs, surtout ceux qu'ils mettaient en responsabilité dans la plantation.
Les années passent, c'est ce que vous appelez les années de bonheur de ce couple, mais le 17 juillet 1777, Joseph Dugourdou meurt, et il meurt de la fièvre jaune. Alors, cette fièvre jaune, elle venait d'où sur cette île ?
Ben, c'est un moustique, un équivalent du paludisme, qui entraîne une fièvre qui donne un ictère tout de suite, d'où la fièvre jaune, et qui est fatale parce qu'il n'y a aucun traitement. Hein, aucun traitement. Actuellement, il y a un vaccin depuis quelques années, à tel point qu'on oublie que ça a été un fléau. Un fléau, cette fièvre jaune, un fléau. Les gens qui allaient en Afrique et aux Antilles mouraient.
Et vous donnez l'explication que cette fièvre jaune, ils l'avaient attrapée par contamination des Noirs qui venaient d'Afrique.
Oui, alors il semblerait, je ne sais pas, que les Noirs l'auraient amené d'Afrique, et en fait, du moins ceux qui avaient survécu étaient immunisés. Parce qu'en fait, il y a une immunisation qui se fait naturellement. Et donc, beaucoup de Noirs l'avaient amené, puisqu'il n'existait pas cette maladie du temps des Caraïbes. Donc, ça a été amené par les populations noires, qui, ceux qui avaient survécu au terrible bateau négrier, étaient immunisés et donc pouvaient ne pas en mourir.
Joseph, donc, décède et il laisse un testament.
Ouais.
Quelle était la teneur de ce testament ?
Ben, c'est assez précis. C'est un testament, c'est assez extraordinaire d'avoir encore un testament de Saint-Domingue daté de 1777, écrit à la main sur 4 pages, où il est décrit tout l'héritage. Sauf qu'il y avait une particularité qu'a bien senti sa sœur, qui a reçu le papier dans le village de Soie, dont le testament a voyagé. Il est arrivé dans le petit village à la stupéfaction de sa sœur, la dernière. Donc sa sœur, voyant, elle était mariée, elle avait déjà un fils, voyant ce testament qui disait, bon écoutez, vous pouvez venir, mais si vous ne voulez pas venir, ça ne fait rien, on s'en passera. Et quand même, la sœur a dit, c'est quand même bizarre, ils nous préviennent, mais ils nous disent de ne pas venir. Mais ils ne parlent pas de la plantation dans le testament, c'est bizarre, il faut y aller. Et le fils, qui était à ce moment, il avait 25 ans, le fils aussi, dit, ah ben maman, écoute, je t'accompagne, tu ne peux pas partir seul. Et ils sont partis tous les deux. Ils arrivent au Cap François, qui était la capitale de l'île à l'époque, côté Atlantique. Et donc ils sont reçus très aimablement par Julie, son fils et son frère, qui leur fait visiter tout, très aimable, et le rendez-vous est donné chez un notaire, donc il y a partage, il y avait des maisons à Saint-Domingue, non à Cap-François, et puis la sœur se dit, mais maître, il n'est pas question de la plantation. Ah ben non, la plantation... Elle est toujours au Gourdou, parce qu'ils étaient mariés en séparation de biens. Ah bon, mais ça, vous ne l'aviez pas dit. Ah ben, on pensait que c'était sous-entendu. Ah bon, mais dans ce cas, on va aller voir. Donc ils sont allés voir. Mais en bonne entente avec Julie, qui n'avait en fait omis de le dire, mais pas caché. Et donc ils arrivent à la plantation Bellevue, ils disent, mais c'est pas mal. Et ben finalement, elle dit avec son fils, et ben, on va rester, on va exploiter la plantation. Voilà.
Et donc c'est une décision qui est quand même lourde de conséquences pour la sœur, puisque il va falloir que elle apporte un certain nombre un montant par rapport à l'héritage qu'elle aurait dû toucher. Elle va renoncer quelque part à l'héritage auquel elle pouvait prétendre pour pouvoir investir dans la plantation.
Voilà, donc à Soie, dans le village ancestral, il y avait des biens, il y avait 2 maisons, il y avait une propriété agricole, il y avait le relais de poste, et donc ils se sont mis d'accord. Donc elle gardait la plantation, et elle laissait à sa belle-sœur, celle dont le mari était mort à Bordeaux, et qui était revenue au village, je vous laisse dans la maison ancestrale de Soie, que j'ai d'ailleurs toujours, qui date de 1400. Voilà, donc il y a eu un partage qui s'est fait sans problème.
Donc cette femme a mis toute sa part d'héritage dans la plantation, mais un événement particulier est arrivé, provoqué par un certain nombre de facteurs que l'on a évoqués un petit peu au début de cet entretien, à savoir le déséquilibre social très important.
Qui s'était aggravé parce qu'il y avait une industrialisation des plantations, en faisant venir de plus en plus de main-d'œuvre noire.
Voilà. Et que ce déséquilibre se caractérisait aussi au niveau de la démographie, puisqu'il y avait des Blancs, des Créoles, des esclaves noirs et des esclaves affranchis.
Il y avait tout un mélange bizarre.
Voilà.
C'est pas bizarre, normal dans l'évolution humaine.
Voilà, mais
explosif.
Explosif, voilà. Ce qui se passe, c'est que finalement, on peut dire qu'à Saint-Domingue, les conséquences de la révolution de 1789 vont précipiter un petit peu les choses. Alors, de quelle manière ça se passe ?
Ah ben, très rapidement, les esprits étaient un peu déjà chauffés à blanc, parce que les Anglais, il faut dire, et les Américains, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, avaient obtenu leur indépendance en 1983 en faisant une république des États-Unis. Et donc, les soldats français, mais noirs, affranchis, avaient participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, ils étaient formés aux idées nouvelles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Surtout les officiers noirs. Il y avait des officiers noirs dans l'armée de Lafayette et du général d'Estaing. Donc, quand le 4 août, les droits de l'homme ont entraîné immédiatement le 4 août l'abolition de l'esclavage, trois mois après, deux mois de bateau, la nouvelle était connue à Saint-Domingue, et ça a été l'explosion armée contre les Blancs.
Voilà. Alors, cette explosion armée, ce soulèvement a lieu...
Oui, alors pourquoi ? Parce que les Blancs, immédiatement, en 1790, ont formé une assemblée locale voulant être indépendants et ne pas respecter les ordres de la Révolution.
Voilà, c'est-à-dire une prise de distance immédiate.
Et donc, un choc social.
Donc, ce soulèvement a lieu le 22 août 1791. Alors, je conseille aux auditeurs d'aller dans le détail de l'histoire que vous décrivez très bien, effectivement, cette atmosphère de guerre civile et ce départ précipité des familles de planteurs, et en particulier de la sœur de Joseph Gourdou, qui est obligée de tout abandonner.
Comme les Pieds-Noirs en Algérie en 62.
Exact. Voilà, le même schéma. Donc, Saint-Domingue devient Haïti le 1er décembre 1804 et connaîtra moult présidents à vie, rois et empereurs que nous laisserons découvrir à nos lecteurs. Je voudrais, avant de nous quitter, que vous nous disiez aussi quel a été très rapidement l'impact d'une loi qui a été promulguée par Charles X et qui a permis à votre famille d'être indemnisée du fait d'avoir été obligée de quitter l'île.
Oui, donc en fait, en 1804, les Noirs ont créé la République d'Haïti en reprenant le nom Caraïbe, Haïti qui veut dire montagne en Caraïbe. Et là, ils se sont succédés des présidents qui s'entretuaient, ça continue d'ailleurs. Hein. Et ils n'avaient pas la reconnaissance internationale de leur indépendance. Et Charles X, qui était un roi pourtant de l'Ancien Régime, a été clairvoyant. Malgré que les colons lui disaient « il faut de nouveau y revenir, envoyer une armée, il faut y revenir ». Non, Charles X a dit non. Non, l'histoire est passée, c'est terminé, on va négocier. Il a négocié avec le président qui s'appelait Boyer, qui était un noir assez évolué, même très évolué, très intelligent. Il lui a dit, écoutez, on va vous donner l'indépendance de toutes les nations de l'époque, vous serez reconnus, mais il faut dédommager les anciens planteurs. Comme l'île avait retrouvé beaucoup de richesses, parce qu'ils avaient toujours l'exclusivité de la canne à sucre et du sucre roux, eh bien, ils ont dit oui. Effectivement, Charles X a reçu des caisses d'or, et mes ancêtres sont venus à Toulouse chercher une caisse d'or, on ne sait pas si elle était de quelle grandeur, mais enfin, cette caisse d'or était conséquente. Puisqu'avec cette caisse d'or, ils avaient une maison à soie qu'ils ont agrandie en la transformant un petit peu en château du village, avec des tours.
Voilà, alors nous n'allons pas déflorer le sujet, puisque je recommande aux auditeurs de lire ce que vos ancêtres ont fait de cette caisse d'or. Simplement, ce que l'on peut préciser, c'est que ils ont acheté un château qui a changé...
Ils l'ont construit,
oui, et il a changé souvent de propriétaire. Et in fine, vous avez pu vous-même le racheter il y a quelques années.
Et on cherche toujours le reste de la caisse d'or, parce que le dernier propriétaire avant moi est mort, enfin, de la famille, est mort brutalement sans dire où il avait caché le reste du trésor. Alors, On le cherche encore.
Alors, est-ce que cette quête va s'arrêter là ou est-ce que peut-être ça donnera lieu à un second livre ?
C'est pas impossible parce que c'est vrai que moi je rêve toujours. Je suis revenu à Saint-Domingue, j'ai refait le parcours initiatique, j'ai retrouvé de vagues ruines de la plantation. Mais c'est un pays merveilleux. Malheureusement, récemment, nous avons de très mauvaises nouvelles de ce pays. Il y a de nouveau la guerre des gangs. Le pays est à feu à sang. C'est épouvantable.
Jean-François Gourdoux, mille merci de nous avoir fait voyager dans l'histoire et dans l'histoire de votre famille. Je rappelle aux auditeurs votre ouvrage « Saint-Domingue, saga du planteur Joseph Dugourdoux », paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Merci à tous, merci à Christophe Aubry à la technique. Au revoir.